Actu SF, les podcasts.
Bonjour, merci d'être venu avec nous en cette fin d'après-midi samedi. Nous allons parler d'un sujet qui revient souvent en imaginaire, alors de manière assez régulière. On va parler de Rome et de l'Empire romain, mais pas l'Empire romain que vous avez appris à l'école, pas l'Empire romain qu'on peut voir à droite à gauche. On a quatre auteurs et autrices qui ont développé leur Empire romain, parfois bien après l'Empire romain, le vrai. Mais peut-être que c'est eux, en fait, le véritable Empire romain. Donc, on ne sait pas trop entre les fake news qui tournent. Autour de la table, tout d'abord, Rachel Tanner avec le cycle de Mithra. Alors, on verra que là, l'Empire romain a survécu un petit peu plus longtemps et qu'il y a une nouvelle religion. Enfin, pas une nouvelle religion, mais il y a une religion qui s'impose. Elle va nous raconter tout ça. À ses côtés, Joanne Elliott, que vous connaissez forcément depuis La Lune seule le sait. Frankenstein 1918, Ciel, Grand siècle, qui est sa dernière trilogie qui vient de paraître chez Mnemos. Mais on parlera peut-être plus de Reconquérant et de la Légion écarlate. Alors lui, son truc, c'est de prendre les Romains et surtout de les mettre en dehors de Rome, pour aller visiter d'autres parties du monde. À ses côtés, Estelle Fay, avec les révoltés de Bohène, ce qui est le dernier, mais aussi les nuages de Magellan, Porcelaine, et puis on parlera forcément de la Voix des Oracles, qui va nous emmener à peu près au 8e siècle, au 5e siècle de notre côté. Et puis à mes côtés, Nicolas Texier, vous avez sans doute lu, sinon il faut le faire très vite, Opération Sabine. Et alors là, l'Empire romain, il a survécu jusqu'à nos jours. Donc voilà. Et pour le coup, il est encore présent parmi nous. Peut-être une première question, puisqu'ils ont tous travaillé autour de l'Empire romain, autour véritablement de ce que représente cet Empire romain, qui nous disent d'abord un peu chacun. Pourquoi est-ce que cet Empire romain les fascine ou en tout cas les a assez intéressés pour les mettre en scène aujourd'hui ? Rachel ?
Oui, bonjour. Je suis du Sud-Est, peut-être ça s'entend. Et l'Empire romain, ben, quand on vit en Provence, il est déjà tout autour de nous. À savoir que quand je suis allée dans les arènes de Nîmes, je suis allée dans les arènes d'Arles, j'emprunte donc des arènes romaines, pour ceux qui l'ignoreraient, qui sont en activité. Je suis allée voir des corridas, je suis allée voir des courses camarguaises. On franchit des ponts qui sont des ponts romains, sur lesquels il y a donc bien sûr un revêtement de goudron, mais l'armature est en pierre. Donc, premier point, ben, l'Empire romain, d'une certaine façon, dans notre environnement immédiat, il est toujours vivant. Je ne suis pas sûre que les bâtiments d'aujourd'hui, dans 2000 ans, seront encore là. Après, le deuxième point, bien sûr, et je crois que ça frappe tous notre imagination, c'est la chute de l'Empire romain, à savoir que nous avons ce phénomène d'une civilisation qui était certes, par beaucoup d'aspects très brillante, mais qui s'est effondrée. Avec des résultats immédiats très nettement perceptibles, à savoir une population divisée par trois, des villes qui ont disparu. Rome est passée d'un million d'habitants à 50 000, pour vous donner un ordre d'idée. Et bien entendu, l'écriture qui disparaît, la monnaie qui disparaît. Donc réellement, après la chute de l'Empire romain, nous avons la civilisation, pour caricaturer, le trou noir derrière. Et ça ouvre, bien entendu, beaucoup de réflexions sur ce qui fait que les civilisations s'effondrent. Pour les gens qui sont un petit peu, qui s'intéressent à ces questions, il y a une expression qui revient, c'est la falaise de Sénèque. La falaise de Sénèque, c'est une civilisation qui grandit, qui s'épanouit, et puis qui tout à coup, donc, le terme de falaise, je pense, est assez bien imagé. Cette falaise donc, montre que ces civilisations s'effondrent. À petite échelle, vous avez par exemple l'île de Pâques, à savoir que, vous le savez, dans le Pacifique, il y avait une civilisation florissante, tous ces gens qui ont fait ces statues, il y avait des forêts, etc. Et quand les Européens sont arrivés, c'était des déserts. Et il y a des gens donc, qui ont réfléchi à ce que cet effondrement civilisationnel D'où venait-il ? Alors, donc, raréfaction des ressources, bon, c'est un débat sur lequel on ne va pas se lancer, mais qui, clairement, pour tout le monde, frappe les imaginations, parce que ben, nous vivons dans une civilisation, bien sûr, qui est mortelle, comme toutes les civilisations, même si on peut ne pas vouloir l'imaginer. Et réfléchir à ce qui fait qu'une civilisation qui était là, qui était brillante, tout à coup s'effondre, je pense que ça nous interpelle tous. Merci.
Joanne ?
Alors, pour ma part, c'est assez, assez différent, parce que mon intérêt, pour ne pas dire ma fascination, si c'est peut-être un peu exagéré, pour l'Empire romain, me vient de la fiction, me vient du cinéma, me vient du péplum. J'ai quasiment grandi devant une télévision. Et en particulier, alors tous ces grands classiques, je ne sais pas, la chute de l'Empire romain, mais le film, Covadis, tous ces genres de choses, voilà, ça me fascinait. Dès qu'il y avait des Romains, une légion romaine, si possible, qui apparaissait dans un film, voilà, moi j'étais ravi. Je vais jusqu'à me souvenir de curiosité, par exemple, alors j'ai oublié son titre, mais je me souviens même avoir vu un film français dans lequel, par exemple, Jean Gabin incarnait Ponce Pilate. Alors ça, c'était merveilleux, avec l'accent parigot et tout. Enfin voilà, non mais. Et donc voilà, donc c'est d'entrée de jeu un mélange quand même de, certes, de réalité historique, mais enfin, et beaucoup de fiction. Si bien que quelques années plus tard, lorsque j'ai poursuivi des études d'histoire, je me suis spécialisé, enfin à un modeste niveau, en antiquité romaine, également parce que d'ailleurs l'enseignant de la petite fac d'histoire dans laquelle je me trouvais, le responsable de cette époque-là était quelqu'un voilà, d'assez fascinant. Donc, voilà. Et alors là, pour le coup, j'ai quand même découvert bon, voilà, la réalité, et puis bon, l'aspect plus va dire, pragmatique et réaliste donc, de cette civilisation. Mais ce qui en a, qui a continué quand même à me fasciner. Et donc, je dirais, c'est presque naturellement que quelques années encore plus tard, quand je me suis lancé en écriture, bah, parmi mes tout premiers romans, il y a les deux que tu as cités, donc Reconquérant et La Légion Incarlate, qui ont à peu près le même motif de départ, qui s'intéressent aux exploits, si on peut dire, d'une légion romaine, mais partie très très loin de ses bases géographiques, puisque pour le coup, à chaque fois, j'expédie mes légions vers le Nouveau Monde, ce qui ne peut pas s'appeler l'Amérique, bien sûr, mais voilà. Voilà pour tout.
Estelle ?
Moi, je vais rebondir sur ce qu'a dit Rachel Tanner. C'est la voie des orales, ça se passe à la fin de l'Empire, et en général, dans l'histoire, dans les périodes historiques que j'utilise dans mes romans, j'aime beaucoup interroger les périodes où on voit changer les civilisations, où on voit changer le monde. C'est des périodes qui, humainement, nous disent énormément de choses. C'est aussi des périodes pleines de contrastes, de dynamiques très fortes. Donc forcément, pour placer des romans, c'est idéal. Et puis aussi, j'adore l'histoire en général, donc avec un grand H. Je suis fan de mythologie depuis à peu près toujours. Et l'Antiquité, ça me permet aussi vraiment de mettre des mythologies grecques, romaines, étrusques. Donc on a une période où déjà l'Empire est devenu chrétien, mais où les dieux anciens, les dieux païens se battent encore pour revenir dans le monde, où il y a encore des créatures mythologiques qui se terrent dans le fin fond des forêts. Bon, l'avantage, c'est que la Gaule, à cette époque, c'est 80% de forêt, donc ils ont de la place où se terrer quand même. Voilà, il y a encore donc, des dryades dans les arbres, il y a encore des faunes qui existent et qui se battent pour continuer à exister. Il y a toute cette mélancolie d'un monde qui meurt. Il y a un nouveau monde aussi qui est en train de naître, douloureusement, difficilement parfois, mais voilà, l'histoire continue toujours. Et aussi, cette période, mine de rien, c'est une époque où, globalement, autour de la Méditerranée, il y a tout un monde, tout un lieu de passage, tout un lieu de culture. Et de nos jours, la Méditerranée est vue avant tout comme une frontière et vue comme un lieu d'où viennent donc des migrants qu'on s'acharne à refouler. C'est presque un charnier, c'est presque un cimetière avec tous les gens qui y meurent chaque jour. Et se rappeler qu'à une époque, c'était Mare Nostrum et c'était notre mer commune à tous. C'était la mer autour de laquelle il y avait toutes ces civilisations qui communiquaient ensemble, qui dialoguaient ensemble. Ça me paraît important aussi aujourd'hui.
Nicolas.
Alors moi, je crois que c'est venu surtout en fait, au départ de l'imaginaire, comme on parlait mes camarades, c'est que, sur l'imaginaire que produit l'Empire romain et qui a perduré jusqu'à la Révolution française. C'était plus en fait, les choses que j'avais en tête, c'est tout ce rapport à l'Empire et en particulier à la République romaine que peut avoir notamment la période révolutionnaire et plus tard le Premier Empire. Et puis bon, moi je le fais perdurer alors jusque très tardivement parce que cette trilogie se déroule dans un monde où il y a un peu de magie, pas d'armes à feu, donc ça a eu un certain nombre de changements, ça a induit un certain nombre de changements en termes de géopolitique. Mais c'est aussi, il ne faut pas oublier que l'Empire romain, il a quelque part perduré aussi avec l'Empire romain germanique tout au long des siècles, et que finalement, ce que je présente comme un nouvel empire romain, c'est l'empire tel qu'il a été démantelé à la fin de la Première Guerre mondiale, comme ça a été le cas pour le Reich allemand, avec une brève période d'une nouvelle République romaine de Weimar, qui, comme la République de Weimar. Et ensuite, il y avait un sursaut impérial. Et je le présente ça vient aussi d'une idéologie matérialiste. Je crois qu'on a parlé tout à l'heure du pragmatisme des Romains, ce qui me semble assez juste. Alors, c'était des gens qui étaient extrêmement religieux, et puis on peut voir ne serait-ce que le nombre de conflits au sein de l'Empire qui ont été provoqués parce qu'il y avait des gens, notamment les chrétiens, qui refusaient de sacrifier à l'empereur, au culte impérial. Mais voilà, c'était aussi des gens qui mêlaient tout ce substrat gréco-romain et toute cette mythologie qui est foisonnante et qui est très puissante, et qui, en plus, nous dit beaucoup de choses sur l'inconscient humain, ces choses qu'ils avaient vraiment très tôt compris, et peut-être plus finement sans doute que c'est un certain nombre d'autres religions. Et donc, il y avait comme ça tout ce transport religieux, mais c'est aussi effectivement des gens très pragmatiques qui vont construire des routes, qui vont construire des aqueducs, qui vont construire des écoles dans certaines cités, et qui mettent en place comme ça tout un ensemble de structures à la fois administratives, juridiques, etc., dont on est finalement aussi, enfin, dont on a hérité à travers ce qui est mis en place sous le consulat, qui lui-même, évidemment, rappelle le consulat romain, et ainsi de suite. Donc, moi, c'est de là dont je suis parti pour écrire Opération Sabine.
D'accord. Estelle, on va faire un petit peu par ordre chronologique, pour le coup, des quatre auteurs et autrices présents aujourd'hui. T'es celle qui, dans La Voix des Oracles, est la plus proche, entre guillemets. Est-ce que tu peux nous dire à peu près où en est ton empire romain ? Est-ce qu'il a de différent dans tes récits par rapport au réel ?
Alors, dans le premier tome de La Voix des Oracles, donc on est au 5e siècle, en gros quelques années avant que les barbares entrent dans Rome. C'est-à-dire, si encore les Romains ferment les yeux très fort, se bouchent les oreilles, ils peuvent croire que, oui, l'Empire, ça va encore durer assez longtemps. Bon, déjà, ça s'effrite quand même pas mal. Et donc, on est dans un empire chrétien. Et en fait, ce qui est différent de l'histoire pure, c'est surtout, on est dans un empire où la magie est réelle, où tout ce à quoi croyaient les gens de cette époque, à tout ce qui existait dans leurs mythes et leurs légendes, existe vraiment dans l'empire. Mais c'est vraiment encore assez proche de l'histoire, par exemple. Donc Tia est oracle, elle voit l'avenir, c'est un don qui lui vient de ses ancêtres étrusques, donc la première grande civilisation de la botte, et la première qui a vraiment écrasé Rome et dont elle a essayé d'oublier la mémoire. Et en même temps, c'est la civilisation à laquelle Rome a pris tous les rituels de divination. Et les rituels de divination qu'utilise Tia dans le livre, c'est vraiment les rituels historiques, par exemple. Mais il y a en plus cette présence du surnaturel, du mythe, donc des dieux païens qui marchent encore dans le monde. Et puis, plus on avance dans la série, et surtout à la fin du deuxième tome, il se passe un retournement de situation qui fait que, pas de spoiler, mais là, on entre un peu plus dans les hypothèses qu'on peut interroger avec l'imaginaire. On se détache plus de l'histoire telle qu'elle a été pour interroger l'histoire telle qu'elle aurait pu être. Voilà, et c'est la question que pose l'Uchronie, qui est un genre dont je crois on va parler un peu aujourd'hui. Voilà. C'est-à-dire, et si les choses s'étaient passées différemment ? Et évidemment, derrière, il y a peut-être toujours un peu ce fantasme. Est-ce que les choses auraient pas pu être mieux différemment ? Voilà. Ou est-ce qu'elles auraient pas pu être pires ?
Rachel, pareil, je vais te poser un petit peu la question. Alors là, on est au 8e siècle, pour le coup, dans le cycle de Mitra. Oui. On en est où au niveau de l'Empire romain ? Là, il a survécu, entre guillemets, à la chute qu'on connaît. Mais géopolitiquement, t'es à quel moment ?
Alors, il y a une raison précise déjà qu'il faut dénommer pour laquelle l'Empire romain a survécu. C'est que mon Uchronie part d'un point historique précis. Alors cet événement historique qui est explicité plus ou moins dans le premier tome, mais dans un sens romanesque, et là je suis tout à fait comme ma collègue, à savoir bien sûr il faut imaginer que dans cet empire, il y a tous les, je dirais, presque archétypes de la fantasy, hein, magiciens, magie qui fonctionne, des dieux qui interviennent. Je ne vais pas revenir sur ce point-là parce que c'est presque implicite, donc on ne va pas revenir sur ce point-là. Mais le point de départ précis, c'est que Constantin, l'empereur Constantin, donc celui qui a, je dirais, déclaré la religion chrétienne, religion d'État, en 324, si mes souvenirs sont exacts. Cet empereur, donc, a connu un drame personnel où il a fait exécuter son fils Crispus et sa deuxième ou troisième femme Fausta, qui aurait eu, et les sources ne sont pas très claires, mais enfin, si on lit entre les lignes ici bien cela, qui aurait eu une aventure ou un amour profond, enfin, je ne sais pas. Bref, il a fait exécuter donc sa femme et son fils. Donc, Crispus était le beau-fils de Faustin, hein, bien sûr, tout le monde a compris. Et donc, ce drame l'aurait beaucoup remué, d'après ce que, là aussi, c'est un peu conjoncturel, mais c'est ce qu'on peut laisser supposer. Et en particulier, donc, l'aurait beaucoup troublé. C'est une interprétation, bien entendu. Je ne dis pas que c'est la vérité historique. Une des interprétations pour lesquelles il a adhéré fortement dans la chrétienté, c'est justement cette âme perturbée et troublée. Dans mon uchronie, donc, les magiciens interviennent. Alors, parce que peut-être, comme dans ton livre, il y en a certains qui ont des dons d'oracle et qui voient que pour eux, ça ne va pas être terrible. Ils interviennent, ils sauvent Crispus, ils sauvent Fausta. Constantin, deux ou trois ans plus tard, meurt comme Robert Baratheon d'un accident de chasse. Mais moi, c'était avant de lire J.R. Tolkien, hein, J.R. Martin. Et donc, du coup, c'est Crispus qui lui succède. Et bien entendu, on lui explique que ce sont les chrétiens qui l'ont dénoncé à Constantin. Et donc, la réaction, eh bien, c'est qu'il commence à repersécuter le culte chrétien. Et en parallèle, donc, favoriser le culte de Mithra, qui est un vrai culte, comme chacun sait ou ne sait pas, mais qui est un vrai culte romain, un culte à mystère, donc, qui était très répandu dans l'Empire romain au IIe et IIIe siècle. Si je suis trop longue,
non.
Okay. Qui était un vrai culte avec des prêtres, des initiations, un culte à mystère qui, comme son nom l'indique, signifie que le néophyte est initié par des rituels initiatiques qu'il ne doit pas dévoiler. Donc nous avons assez peu de renseignements sur ces cultes, ce qui m'a obligé bien sûr à faire un travail de reconstruction et d'imagination aussi. Par exemple, je me suis un peu inspiré des cultes à mystère d'Osiris pour recréer la séquence initiative où un des personnages du livre va se retrouver, donc qui est décrite. On a une idée générale, mais on n'a pas une idée précise. Et donc le christianisme étant combattu, éradiqué, la religion de Mithra triomphe, je la fais courte, hein. Mais à ce moment-là, si vous voulez, l'idée c'est, et là aussi ça peut être discutable, c'est que cette religion de Mithra était une religion guerrière, était une religion combattante, était une religion très romaine en fait, même si elle vient de Perse, dans ses valeurs, c'est-à-dire de sacrifice pour la patrie, on ne disait pas la patrie à l'époque, mais pour l'ours, pour la cité, pour Rome, des notions de solidarité entre soldats, et que donc cette religion de Mithra va exalter les vertus romaines et donc empêcher Rome de s'effondrer. Parce que il est clair pour moi qu'une civilisation ne s'effondre pas sous les coups de l'extérieur. Une civilisation s'effondre, je dirais, de la décomposition intérieure, même si le coup de l'extérieur peut donner le coup final. Et donc, j'ai été obligée, bien sûr, de faire tout un travail de construction, d'imaginer une société qui n'a jamais existé, à savoir un empire qui est un mélange de bas empire romain. Alors, bas empire romain, ça signifie quoi? Ben, ça signifie Fuite des élites urbaines dans les campagnes, pression fiscale intolérable parce qu'il faut entretenir des normes armées sur le limès. Pourquoi faut-il entretenir des normes armées ? Parce que la classe moyenne, celle qui fournissait le gros des corps de l'armée romaine, la petite paysannerie, la moyenne paysannerie, disparaît. Tout parallèle avec notre société n'est pas tout à fait innocent. Hein. Quand les classes moyennes disparaissent, les sociétés s'effondrent à court ou à moyen terme. Et donc, il y a une pression fiscale qui est de plus en plus énorme. Et à ce moment-là, donc, il y a une fuite des élites et d'une certaine population dans les campagnes. Donc, il a fallu que j'imagine une espèce de bas-empire matinée de haut Moyen-Âge avec une espèce de régime semi-féodal, mais pas vraiment féodal non plus. Il n'y a pas de serf, par exemple. Nous sommes dans un système où nous avons le Morgengeld, c'est-à-dire le prix du sang. Quand il n'y a pas de loi et quand il n'y a pas de juridiction, comment régler les querelles entre familles et entre individus ? Bah, il faut bien le faire d'une certaine ou d'une autre, sinon c'est l'extermination réciproque. Hein, voilà. Donc les Germains avaient ce qu'ils appelaient, ce qu'on appelle le droit du sang, c'est-à-dire la loi du sang, c'est-à-dire qu'il y avait des dommagements financiers qui étaient accordés aux familles des gens qui avaient été blessés, assassinés, etc. Tout ça, bien entendu, n'était possible que si les deux l'acceptaient. Donc voilà. Après, j'ai été obligée d'imaginer aussi pour le culte de Mitra des modifications. Alors je vais quand même en dire une ou deux parce que ça me paraît important. Dans le culte de Mitra, les femmes n'étaient pas admises au culte. Il est évident qu'une religion d'État ne peut pas, une religion d'État ne peut pas fonctionner sans femmes, je dirais. Donc le culte de Mitra est ouvert aux femmes à une certaine époque précise. Les prêtres de Mitra n'étaient pas des professionnels, c'était des gens qui étaient magistrats, légionnaires, percepteurs. La religion de Mitra se bureaucratise. Nous avons une bureaucratie. Alors on me dit souvent, tu es très anti-religieuse, mais en fait ce n'est pas tellement la religion, je dirais, c'est plutôt la bureaucratie. C'est la bureaucratisation qui fait que les systèmes deviennent très pesants et très répressifs. Donc, la religion de Mitra se bureaucratise. Alors, on retrouve un certain nombre de personnages aussi, mais le seul qui est clairement reconnaissable, c'est Charlemagne, mais qui, là encore, n'est pas le Charlemagne que l'on connaît, mais un chef germain, parce que, bien sûr, l'Empire aussi s'effrite. C'est-à-dire qu'on a un peu le même phénomène de ce qui s'est passé avec l'Empire byzantin, hein, l'Empire romain d'Orient, qui, je rappelle, quand même, a perduré jusqu'au XVe siècle. Donc, quand on dit l'Empire romain a disparu au Ve siècle, c'est un point de vue très occidental de l'Ouest, hein, parce que pour eux, ça a perduré jusqu'au XVe siècle, je rappelle quand même. Donc, tout ça a fait que il y a une construction économique, sociale. Bon, enfin, j'aimerais pas non plus paraître complètement détaché intellectuel, parce que c'est bien sûr des aventures avec des personnages, avec c'est ce qui prime bien entendu dans le roman. Hein, mais là, je vous décris, si vous voulez, l'arrière-plan en fait. Voilà. Donc,
Non, c'était bien. Johan, alors, est-ce qu'on parle de la Légion Écarlate ou peut-être de Reconquérant ? Parce que la Légion Écarlate, on est pendant l'Empire. Par contre, Reconquérant, on est bien après l'Empire.
Voilà. Alors, le point de départ qui est, je dirais, expédié en prologue, donc je raconte comment un grand général, alors, fictif pour le coup, de l'époque à peu près sous César, en gros un petit peu avant, si ma mémoire est bonne, voilà, et envoyé avec sa légion au-delà des colonnes d'Hercule, au-delà du détroit de Gibraltar, parcourir la grande mer et, ma foi, voir s'il se trouve quelque chose. Et puis, bien sûr, il disparaît, son père, toute trace d'eux, et l'action ensuite de mon roman va commencer véritablement 1500 ans plus tard, grosso modo, dans le Nouveau Monde, où, ma foi, mes Romains se sont développés, puisque, pour le coup, ils ne se sont pas trouvés face à des oppositions de hordes barbares. Ils ont réglé le problème amérindien, comme tout bon colon européen est amené à le régler, c'est-à-dire en en massacrant une partie, puis en en soumettant une autre, parce que parce que j'ai voulu aussi montrer, enfin voilà, la civilisation romaine est en fait une civilisation de colons et de guerriers. Ça marche ensemble. Et alors, effectivement, certes, ils vont, on en parlait tout à l'heure, ils ont ensuite assimilé, ils ont ensuite récupéré de façon très pragmatique tout ce qui pouvait leur être utile politiquement dans les autres cultures, dans les autres religions. Mais enfin, après les avoir soumises, voire éliminées, en face, on n'acceptait pas la soumission. Il faut quand même rappeler ça à la base. Voilà quand même ce qui est la base de l'Empire romain. Et donc, bref, ils ont pu construire une grande, grande, grande civilisation qui s'est développée beaucoup plus rapidement qu'elle ne l'aurait fait en réalité, puisqu'ils n'avaient pas d'opposition. Donc, vers à peu près l'an 1500, si on veut, ils ont des machines à vapeur, Et il couvre enfin tout le territoire américain. Et c'est le moment choisi par le Sénat de ce nouvel empire romain pour mettre construire une immense flotte de reconquête, donc d'immenses bateaux à vapeur, et puis pour lever sur tout le territoire une armée de reconquête de l'Ancien Monde, puisqu'ils sont restés vraiment sans nouvelles pendant 1500 ans. Des légendes, des histoires, la tradition orale a perpétué des légendes, mais enfin, voilà, il y a une coupure complète de communication. Et l'histoire va être racontée au point de vue d'un groupe de généraux candides qui sont en âge d'incorporer cette grande armée de reconquête, sauf un qui va, lui, s'y opposer pour des raisons politique et qu'on retrouvera, enfin, qui va suivre une autre voie. Et on va suivre depuis le moment où ils sont recrutés, leur entraînement, la découverte de ce merveilleux monde militaire qui n'a pas beaucoup changé à l'époque où je le décris par rapport aux règles qui étaient en usage vraiment sous l'Antiquité. Et ensuite, arrivé à peu près à la moitié du roman, là, tout bascule puisque... Arrivés de retour dans le Nouveau Monde, ils s'aperçoivent que, alors là, en revanche, là, l'histoire a complètement divergé par rapport à celle que nous avons pu connaître. Il y a eu une sorte de d'effondrement généralisé des civilisations dès l'Antiquité, d'ailleurs, dans la vieille Europe. Et ils découvrent un monde qui est un pur monde de fantasy. Et là, je ne peux pas en dire encore trop, puisque on peut tout spoiler le roman. Voilà. Et on a donc, du coup, là, c'est ce qui m'intéressait, la confrontation entre, on va dire, une civilisation donc plutôt basée sur une certaine forme de raison quand même, et de technique et de technologie, et qui va se confronter à un ensemble de civilisations qui elles ont perduré autour de la magie, voilà, pour faire simple.
Nicolas, alors cet empire romain de Weimar, comment il est? Est-ce qu'il ressemble beaucoup à ce qu'on connaît?
Alors, il ressemble un peu à ce qu'on a connu en fait à la fin de la Première Guerre mondiale, on va dire. Mais l'idée, en fait, puisque les personnages principaux d'Opération Sabine sont des Britanniques, qui eux sont justement engagés par les services secrets britanniques pour exfiltrer un savant dont les découvertes dans le domaine de l'atome intéressent justement les services secrets de l'Empire, du Nouvel Empire. Donc l'idée, en fait, globalement dans cette trilogie, c'est que la magie ne permet pas l'application des règles de physique classiques et que du coup ça freine naturellement le progrès, et que donc les Romains, en l'occurrence, qui souhaitent eux le développement de tout ce qui pourrait y avoir de moteurs à explosion, d'armes à feu et ainsi de suite, s'intéressent précisément à ces découvertes qui pourraient permettre à la fois de maximiser le matérialisme, on va dire, ou alors de maximiser la magie. Et sinon, l'Empire romain, j'ai fait un peu un mix de ce qu'il pouvait y avoir dans l'Empire traditionnel, hein, tel qu'il s'est présenté au 1er siècle, avec un Sénat, avec des institutions comme ça qui sont solides. Et puis, en mettant quelques ingrédients aussi de ce qui a pu être dans l'Empire romain germanique, avec tout l'aspect administratif, tout l'aspect militaire aussi. Évidemment, alors on a tous parlé de la Légion, parce que c'est quelque chose d'assez frappant dans l'histoire romaine, surtout que c'est la première fois qu'il y a... Il y a une armée qui utilise ces techniques-là et qui vient à bout notamment des phalanges, que ce soit macédoniennes ou grecques, qui jusque-là dominaient complètement le monde militaire de la Méditerranée. tout simplement parce qu'il y a des techniques, ça vient à la fois d'une utilisation intelligente, d'un armement, de tactiques, et ainsi de suite, qui fait qu'ils vont asseoir complètement leur domination sur l'ensemble justement de la Méditerranée. Et donc là, j'en ai fait effectivement une grosse machine, et on parlait de la Perse tout à l'heure. En fait, je me suis un peu inspiré aussi des gardiens de la Révolution. Il faut savoir que les Basidji actuellement en Iran, c'est une espèce d'armée parallèle, mais elle possède ses usines, elle possède ses magasins, elle possède ses HLM. Donc c'est une espèce d'état dans l'état. C'est bien pour ça que le régime iranien est aussi emmerdé, si vous passez l'expression, avec cette frange de la société qui finalement empêche toute forme de progrès. Et donc voilà, c'était l'idée justement d'un appareil militaire puissant. Comment on l'a connu ? En fait, c'est un peu une marque, parce que finalement, quand on parle d'empire, ça recouvre des formes politiques très différentes, que ce soit un consulat à vie, comme ça a pu être sous le Premier Empire, ou même sous les empires classiques dès Octave Auguste, ou d'autres types d'empires, où on va avoir différents types de structures politiques finalement. Et donc, c'est simplement, quand on parle d'empire, c'est simplement l'exercice de l'imperium, c'est-à-dire de la force, de celui qui domine, c'est le primus inter patres, c'est-à-dire le premier parmi ses pairs. Et donc, voilà, c'était l'idée d'avoir comme ça un pouvoir fort qui s'exerce notamment par une armée puissante. Si on se souvient de l'Empire ottoman, ben, voilà, vous aviez les janissaires qui étaient aussi un état dans l'état. Pour le Premier Empire, on avait la grande armée dont on connaît l'importance pour les guerres napoléoniennes et qui a tout sans doute été un facteur du développement justement de cette hubris guerrière qu'a pu saisir Napoléon Ier. Et ainsi de suite. Donc vous avez souvent, quand vous avez un empire, c'est-à-dire une domination forte sur une zone, c'est rarement sans une armée puissante. Et simplement pour revenir sur le bas-empire, ce qu'on a parlé, quelque chose qu'on oublie souvent, c'est que l'empire romain tel qu'il était, on t'a parlé tout à l'heure de la Méditerranée et de ce que ça constitue aujourd'hui, c'était aussi à l'époque un formidable outil d'intégration. Alors ça paraît un peu paradoxal, mais vous avez des empereurs qui, après deux générations, alors qu'ils étaient barbares, leur grand-père était barbare, qui accèdent au trône, et vous aviez l'intégration d'énormes contingents de barbares qui franchissaient ou le Danube ou le Rhin à l'intérieur de l'armée romane. Alors ça a probablement justement été un facteur de décomposition de l'Empire, parce qu'au bout d'un moment, vous avez un morcellement complet entre les troupes qui sont plutôt ostrogothes, celles qui sont plutôt vandales, celles qui sont plutôt visigothes, et ainsi de suite. Mais néanmoins, voilà, ça a permis d'assimiler, alors bon gré mal gré de la part des Romains, mais au départ, ça, dès le IIe siècle, on a comme ça l'intégration de toute une élite guerrière et des contingents lourds à l'intérieur de l'armée romaine, et à partir du moment où il suffisait simplement que la personne qui pourtant... au départ, venait du fin fond de la Germanie, adopte les coutumes romaines, sacrifie au culte impérial, et il était tout de suite intégré. Donc voilà, alors, je ne dis pas que c'est des modèles dont il faudra s'inspirer, mais simplement je voulais souligner ce modèle d'intégration, d'assimilation, comme on dit aujourd'hui, qui a pu représenter à un moment donné l'Empire, et pas seulement dans l'armée, hein, bien sûr, à travers notamment les élites urbaines. On se souvient de la citoyenneté qui est accordée aux Éduins compte tenu de l'aide qu'ils ont procurée à Jules César au moment de la conquête des Gaules, mais c'est aussi rapidement le cas de l'ensemble de la Lyonnaise. Et donc, ainsi de suite, vous avez comme ça l'Empire qui, un peu comme une éponge, si vous voulez, qui prend tout ce substrat qui l'entoure.
Mmh. Estelle, toi, tu te situes en Gaule, alors pas tout à fait, enfin dans l'Empire romain, mais finalement un petit peu à l'extérieur aussi. C'était un cadre parfait pour mettre en scène cette sorte, pas de guerre des dieux, mais en tout cas de guerre des croyances.
Alors oui, le premier tome de La Voix des Oracles, c'est globalement, même s'il y a quelques passages un peu plus loin, mais c'est une traversée de Gaule vraiment, du sud au nord. Et c'est un voyage qui est à la fois très simple géographiquement, mais qui dit beaucoup de choses aussi philosophiquement, culturellement. C'est-à-dire que Tia, l'héroïne, part du sud d'un monde qui est encore quasiment donc celui de la haute antiquité, et elle va arriver à un monde qui est déjà presque du Moyen-Âge, en fait. Et après, on peut soit arrêter la lecture à la fin du tome 1, il y a déjà un premier bout d'histoire qui est résolu, soit on peut la continuer et les autres tomes partent beaucoup plus loin, et donc dans le deuxième tome, elle part vers l'Est. Donc voilà, et notamment quand on parlait d'Empire byzantin, elle découvre avec sa petite troupe l'Empire byzantin, et elle découvre en fait que, à la base, donc Tia, elle a été élevée par son père, qui est un général d'Empire romain, et elle connaît du monde. Elle vit recluse dans une villa au fin fond des forêts d'Aquitaine et elle connaît du monde que ce que son père lui a appris. En gros, Rome, c'est le bien, le reste, c'est le mal. Il avait une vision du monde assez carrée, quoi. Et donc, elle en sort, elle découvre un monde qui ne ressemble pas du tout à ça. Et dans le deuxième tome, quand elle va découvrir d'abord l'Empire byzantin, et puis au-delà, donc, l'Empire sassanide, qui est tellement plus puissant, tellement plus riche, tellement plus incroyable que l'Empire romain d'Occident à son époque, elle va découvrir que voilà, le monde ne se résume pas à ce qui, d'après son père, était l'apogée de la civilisation. Et elle va remettre en question ce qu'elle a appris, elle va changer, elle va découvrir des horizons beaucoup plus vastes. Et face à ces horizons beaucoup plus vastes, forcément, elle aussi va devenir quelqu'un d'autre, va devoir remettre en cause qui elle croyait être pour devenir qui elle pourrait être. Voilà.
Il y a un plaisir comme ça à se balader dans l'Antiquité,
ouais.
À explorer des territoires et à sortir un peu de ce qu'on connaît.
Oui, et voilà. Et bah, mine de rien, c'est quand même aussi des périodes qui sont évidemment fascinantes. Je pense que sinon, on n'irait pas vers ces périodes-là. Et c'est des périodes où il y a une variété de cultures, de civilisations, de cultes, voilà, de vêtements, de cuisine aussi, parce que notamment, j'essaye de reconstituer au maximum ce que mangeaient les gens de cette époque, par exemple. Et en même temps, bah, les livres, c'est la meilleure machine à voyager dans le temps qu'on ait pour l'instant, en tout cas, où on peut vraiment être avec les odeurs de cette époque, où on peut être avec les goûts de cette époque, les manières de penser le monde. Donc voilà, c'est complètement... Plus j'adore les romans qui font voyager en tant que lectrice. En ce moment, je suis en train là, de lire le cycle de Mitra et j'adore, au fait, c'est super cool, c'est vraiment de la grande aventure. Et j'adore aussi en écrire forcément en tant qu'autrice, c'est ça que j'essaye d'amener à mes lecteurs. Donc voilà, faire ce voyage immense dans toute cette antiquité, jusque dans le désert du vide, enfin, et puis dans le tome 3, ils vont jusqu'à Carthage, parce que voilà, Carthage me fascine depuis que je suis toute môme, et évidemment aller à Carthage dans l'Antiquité, c'est un rêve qui n'est pas trop réalisable dans le monde réel, mais qui est totalement dans les livres. Donc voilà, voyager dans ce monde-là, c'est à la fois un immense plaisir, et mine de rien, c'est une manière aussi de faire mettre le lecteur dans la peau de cette héroïne qui se questionne sur finalement, face à ce monde-là, qui est-ce que je suis, moi. Voilà.
Rachel, oui.
Excusez-moi, je voulais rebondir sur la cuisine. C'est peut-être un détail, mais j'ai beaucoup aimé dans ton livre, justement, tu parles du garum, qui était réellement l'ingrédient de base des Romains. Alors, globalement, je crois que ça ressemble à Nguyen Man vietnamien, quoi. C'est-à-dire, c'était des entrailles de poisson qu'on mettait à mariner ou quelque chose comme ça, ou à sécher, mariner, etc. Et ils arrosaient, les Romains arrosaient tous leurs plats de garum. Et je crois que tu es la première que je lis qui en parle vraiment réellement, mais peut-être je me trompe, peut-être qu'il y en a d'autres qui en ont parlé. Mais c'est vrai que... Tu en as parlé aussi, excuse-moi.
Non,
j'ai pas,
non,
lu
non pas moi du tout. Mais j'ai pas lu tes livres. Non, mais c'est, en l'occurrence, je me demande si c'est pas cité dans Salammbô.
Ah, peut-être, oui, c'est possible. Mais je me rappelle plus de cela. Mais Salammbô, ça se passe à Carthage, non?
Oui, mais enfin, c'était des recettes qui étaient utilisées, à mon avis, dans une grande partie de la Méditerranée, quoi.
Je l'ai lu, je n'ai pas souvenance de ça, mais je
c'était
peux...
C'était une erreur, hein, je ne voudrais pas.
Ça fait longtemps que je l'ai lu, donc oui, c'est-à-dire qu'il y, a vraiment, il y avait vraiment des spécificités de la cuisine romaine que j'ai bien aimé retrouver dans ton livre, parce que souvent, ce n'est pas que je veuille faire de la documentation, m'approcher aux détails, etc., mais... Il faut savoir que les sensibilités culinaires, suivant les civilisations, changent complètement. Les Romains, par exemple, ils ne faisaient rien rôtir, quoi. Ils faisaient tout bouillir. Il faut le savoir, parce que pour nous, c'est quand même assez étrange. Ou alors, par exemple, le vin, on mettait du miel, on mettait du sel, on mettait de l'eau de mer, on mettait des choses comme ça. Et c'est vrai que c'est sûr que ce n'est pas ça qui fait un roman. Mais je trouve que si on ne met pas ce contexte, personnellement, moi, quand je lis un livre et que je commence, que dans la première page, les chevaliers du Moyen-Âge ils font cuire des pommes de terre avec des tomates, personnellement, moi, d'entrée, je referme le livre parce que ça me sort complètement de l'univers. Et donc, j'aime bien retrouver, parce que la cuisine, et mes personnages, dans leur tome 2, en discutent. Les Romains aimaient beaucoup parler de cuisine. Et ils étaient très fins gourmets. Donc, ils en parlent beaucoup. C'est une partie de leur univers. Et ça permet aussi... Et là, on aborde l'histoire des mentalités, parce que ça permet aussi de comprendre comment ces gens-là fonctionnaient. Et pas du tout comme nous, en fait. Hein, la conclusion, quand même.
Juste pour finir là-dessus, deux petites choses. Ben, vous pouvez, si vous voulez, alors là, je n'ai pas des titres en tête, mais maintenant, vous trouvez assez facilement des livres de recettes qui sont en gros comment tester chez vous avec les ingrédients d'aujourd'hui, les recettes romaines. Le garum, ils en mettaient aussi dans les gâteaux. Quand on teste, au début, ça fait peur. Et en fait, non, c'est bon. Voilà, vraiment, hein, on a testé. Voilà, ouais, on a testé. Donc, voilà. Et oui, ça fait partie de l'immersion aussi, d'avoir ces goûts-là. Et quand on a testé justement les recettes romaines, donc quand j'écrivais Tia avec les goûteurs de mon entourage, finalement, c'est une cuisine qui nous faisait plus penser, par exemple, à la cuisine libanaise d'aujourd'hui, plutôt qu'à la cuisine française ou à la cuisine même italienne. Donc c'est comme si c'était des goûts qui s'étaient déplacés un petit peu vers l'Orient maintenant, ou des goûts plus orientaux à cette époque chez nous. Voilà. Mais il y a tout ce genre de décalage qui est très intéressant à expérimenter si vous aimez cuisiner.
Ça me fait penser que finalement tout ça, c'est pour ne pas rompre le sentiment d'incrédulité par rapport à la véritable histoire. C'est tous ces détails-là qui donnent une véracité à l'ensemble.
Je veux pas monopoliser la parole. Oui, ça c'est le premier niveau, à savoir déjà pour être dans l'histoire. S'il y a un détail, enfin s'il y a des choses qui ne cadrent pas du tout, on sort de l'histoire. Mais pour moi, ça va plus loin que ça. C'est-à-dire, ça nous permet aussi d'être vraiment dans un autre univers. Et c'est ça l'intérêt quand même d'écrire. Et pourquoi aime-t-on écrire de la fantasy et des mondes qui sont soit des uchronies, soit des choses qui se rapprochent de cela? C'est parce qu'on est vraiment projeté dans un autre univers. On aime la diversité, on aime l'altérité, on aime sortir de soi. Donc voilà, il y a aussi comprendre d'autres gens, d'autres mentalités, d'autres façons de vivre. Voilà, ça va plus loin pour moi.
C'est tout l'intérêt de l'exotisme, finalement. Et c'est d'autant plus intéressant, en plus avec l'Empire romain, que finalement, on a tous un peu une approche un peu scolaire, finalement. C'est des choses qu'on a, alors plus jadis encore davantage, mais on a une approche comme ça classique, alors que si on relit aujourd'hui le texte de l'Iliade, par exemple, tel qu'il a été republié en vers dans la collection Folio, on est vraiment frappé par d'abord la puissance du texte et surtout son caractère très exotique, très puissant, quoi. C'est vraiment quasiment étrange. Et bon, c'est tout l'intérêt effectivement de faire ce type de reconstitution. Alors bon, moi je ne mets pas de recette de Lucullus dans mon ouvrage, mais c'est effectivement, quand on écrit dans ce genre de domaine, naturellement on a envie de restituer tout un ensemble, tout un univers, quoi.
Oui, alors, la différence de mes camarades sur ce coup-là, j'ai pas fait. Alors, pour autant que je me souvienne, parce que Reconquérant, c'était mon troisième livre, je l'ai écrit à peu près il y a 17 ans, donc c'est un peu vieux tout ça. Mais je me suis pas immergé, voilà, vraiment dans des sources, des choses pour mettre tout ce genre de détails, parce que vraiment les univers que je mets en place dans ce livre-là sont vraiment très 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 loin de la réalité. Donc du coup, j'avais au contraire, il fallait pas vraiment que je sois ancré dans des éléments du détail du réel, voilà. Donc j'ai absolument pas fait ce genre de travail pour ce texte-là. Voilà.
Sur une autre table ronde, on parle de nourriture. Sur une autre table ronde,
Comme les Romains.
Ouais, on parlait notamment de point de vue de l'historien, en se disant que un des écueils parfois de la réécriture de l'histoire, c'est d'adopter un point de vue très 21e siècle. Et les croquettes attendent. D'un point de vue très très contemporain aujourd'hui. Et comment est-ce que vous avez fait ça? Est-ce que vous l'aviez en tête de pas simplement imposer une vision d'aujourd'hui du monde romain? Qui veut répondre?
Honnêtement, pour autant que je me souvienne, ça fait pas partie des questions que je me suis posées à ce moment-là. Donc, je dirais même, ça fait même pas partie des questions que je me pose quand j'écris même aujourd'hui d'autres uchronies. C'est toujours difficile si on prend ce parti. Comment pensait-il vraiment, quelle que soit l'époque choisie? Comment en être certain? Comment se départir complètement de notre vision d'aujourd'hui? Enfin, surtout quand on était formé, je pense à mes études d'histoire, l'histoire n'est jamais complètement objective, quoi qu'il en soit, d'une époque à l'autre. On est soi-même le fruit d'une formation spécifique. Enfin, à titre personnel, savoir me quand je dirais me couper de ça, ça me paraît assez difficile. Donc j'essaie vraiment de ne pas me poser cette question-là. Enfin, d'ailleurs, et même à titre personnel, en tant qu'auteur, c'est pas... Donc, a priori, là, je diffère de mes collègues. Ce n'est pas ce qui m'intéresse quand j'écris ce genre d'histoire. Voilà.
Rachel ?
Alors oui, effectivement, nous différons là. Moi, je vais faire de la publicité pour une série que j'ai trouvée fabuleuse. C'est la série Rome, s'il y en a qui l'ont vue. Et ce que je trouve merveilleux dans cette série, c'est que même si les événements historiques ne sont pas du tout respectés à la lettre, mais ce n'est pas grave du tout, parce que c'est presque une œuvre. Enfin, c'est une œuvre de fiction en fait. Hein. Ce n'est pas de la fantaisie, mais c'est de la fiction. Alors globalement, on retombe quand même sur ses pattes hein, au niveau historique, c'est-à-dire que. Mais il y a un tas de choses. Par exemple, Octave n'est pas à Rome au moment où Jules César meurt, enfin, etc., etc. Donc l'histoire, c'est une fiction. Mais ce que je trouve fabuleux dans cette série, c'est que pour moi, alors après. Voilà, c'est une œuvre d'imagination quand même. C'est pour ça qu'on est dans l'imaginaire. C'est que réellement, on se projette dans l'état d'esprit d'autres gens complètement différents. Et dans Rome, je trouve qu'ils y ont très bien réussi. C'est-à-dire qu'à la lettre, c'est peut-être pas terrible, mais alors dans l'esprit, je trouve que c'est extraordinaire parce qu'on est vraiment... avec des gens qui pensent différemment. Et ça se sent très, très clairement dans la série. Voilà ce que c'est pour moi qu'une œuvre d'imagination. C'est-à-dire, on ne respecte pas forcément à la lettre les faits, mais dans l'esprit, on y est.
Estelle ?
Oui, alors, je suis assez complètement d'accord avec ce que vient de dire Rachel Tanner. C'est-à-dire que, pour moi, en littérature en général, quand on parle... de d'autres pays, de d'autres époques, où quand on fait de l'imaginaire à fortiori, ce qui m'intéresse, c'est de sortir de ma carcasse, aussi bien quand je suis lectrice que quand je suis romancière. Je ne suis pas historienne et je ne prétends pas l'être, donc justement, l'idée, c'est effectivement d'essayer beaucoup plus de retrouver un esprit, de reconstituer un esprit, plutôt que de se dire qu'on va absolument avoir super juste la lettre des faits, même si j'essaye de me documenter au maximum. Mais voilà, je suis à ma place de romancière et j'y suis très bien. Il y a des super historiens qui écrivent des super bouquins documentaires que j'adore lire. Voilà, et je ne prétendrai jamais être à leur place. Après, par contre, j'essaye effectivement de me mettre dans la peau de d'autres personnages, de voir comment eux voyaient le monde, expérimentaient le monde, de voir comment eux, ils décryptaient le monde. Et pour ça, bah, en fait, ma technique de base, je l'ai trouvée grâce à un très grand auteur et à une très grande figure de nos littératures qui s'appelle Xavier Mauméjean. Il y a ses livres et parfois lui aussi sous la bulle du livre. Allez-y, vraiment. Je l'ai rencontré ici, même sur les Imaginales, il y a exactement 10 ans. Et c'est lui qui m'a vraiment aidée à trouver ma manière d'être autrice. Donc à la base, je viens du théâtre, j'ai été comédienne. Ce qui me parle beaucoup, pour faire très court, c'est la méthode Stanislavski, je ne sais pas si tout le monde connaît. C'est l'idée que vraiment on se met dans la peau d'un personnage en reconstituant tout son environnement, là d'où il vient, sa culture, au maximum, sa façon de bouger. Ben, par exemple, donc, si c'est une femme du 19e qui porte un corset, on va porter un corset, on va se mettre dans sa tenue, voir comment on bouge avec, se demander comment ça fait quand on porte ça depuis des années, quand on le porte tous les jours. Donc essayer vraiment de reconstruire au maximum la culture autour d'elle, l'éducation qu'elle a eue. Voilà, donc par exemple, si c'est dans un monde très froid aussi, l'idée de se dire que non, il n'y a pas de chauffage central comme chez nous, enfin, tout genre de questions, quoi. Reconstituer au maximum là d'où vient le personnage, aussi bien donc physiquement que psychologiquement que culturellement. Et après, se demander, OK, et maintenant, face à cette situation-là, il ferait quoi ? Sachant qu'il part de là, qu'il a aussi tel caractère, dans cette situation-là, il ferait quoi ? Voilà. Et partir avec des questions plutôt qu'avec des réponses préconçues, en fait. Suivre les personnages plutôt qu'essayer de leur imposer mon point de vue. C'est ce que j'essaye de faire dans l'imaginaire, en allant aussi poser des questions à des gens qui savent mieux que moi, donc, par exemple, sur les combats, sur la nourriture, donc sur les costumes aussi. Voilà, en lisant, en me documentant et puis ensuite en essayant de faire mon travail le plus sincèrement possible.
Nicolas ?
Alors, je crois qu'effectivement, tu parlais de la série Rome, c'est vraiment pertinent. Enfin, ils ont vraiment réussi à respecter l'esprit de ce que devait être l'état d'esprit justement des Romains de l'époque et surtout dans sa violence en fait et dans le fait que tout se règle plus ou moins par un rapport de force. C'est vraiment du coup assez terrifiant et comme je disais Estelle, c'est effectivement, on a tous le souci effectivement de se couler vraiment dans un personnage pour lui faire adopter des attitudes qui auraient été celles les siennes à une époque donnée. Alors, moi c'est probablement pour ça que du coup que j'ai ramené tout ce contexte-là dans les années 30, tout simplement parce que alors la période de l'empire historique, ça aurait été difficile pour moi précisément à cause de ce degré de violence et ainsi de suite avec lequel je suis pas forcément très à l'aise. Et à basculer par exemple dans l'empire byzantin qui est beaucoup plus proche effectivement, mais qui a lui par contre une obsession religieuse qui domine l'ensemble de la vie à la fois politique, militaire et de tous les jours. Donc bon, du coup, c'était une manière pour moi justement de ramener des personnages avec lesquels je pouvais me projeter plus facilement, être en phase et ainsi de suite, tout en gardant cet aspect quand même, enfin cet exotisme qui réside précisément dans l'existence de structures particulières, d'un monde particulier, donc avec cette un peu comme pendant la guerre froide, vous aviez là un pôle des États-Unis contre les URSS, pour dire vite, et où là, vous avez des nations qui sont adossées un peu à la magie, comme en particulier la Grande-Bretagne, et puis un monde plus matérialiste qui est justement celui de ce nouvel empire romain. Quoi.
Il est déjà... Oui, vas-y.
Je crois que je me suis laissé emporter tout à l'heure, je voulais dire un petit truc. Donc, ce que m'a dit Xavier Mauméjean au début, c'est justement d'écrire mes personnages comme si j'allais les jouer en tant que comédienne. Voilà, c'était la conclusion que j'avais oubliée, désolée.
Joanne, tu voulais ajouter quelque chose?
Oui, non, moi, je n'ai pas du tout cette vision-là. Donc, mais enfin, voilà, mais c'est, au contraire, enfin, du principe, je me pose le moins de questions possible. Pour moi, c'est comme ça que ça fonctionne. Je sais qu'il y a, mais là, ça qu'on divise du sujet, mais il y a une chose qu'on ne contrôlera jamais quand on écrit une fiction, quand on écrit même n'importe quoi, mais c'est encore d'autant plus vrai pour nos fictions de pur imaginaire, c'est l'interprétation du lecteur. Voilà, donc ça, je lui laisse, je me défausse, moi, lâchement sur le lecteur pour tout ça.
Il est déjà 17h56, est-ce que quelqu'un a une question à poser à nos auteurs?
Plateau. Une fois, deux fois, trois fois.
Bon, assommé, en fait.
Une dernière question très rapide. S'il y a un élément à garder pour faire Empire romain quand on l'a distordu, emmené de l'autre côté de la mer ou en 1930, c'est quoi? C'est le drapeau, c'est l'aigle, c'est la toge, c'est le Sénat, c'est quoi?
Je dirais les aigles et le Sénat, si je peux en citer deux à ce moment-là. Mais... Ouais.
Estelle?
Faites des gâteaux au garum, c'est super bon.
Joanne ?
Le glaive.
Le glaive, ouais. Et Rachel ?
Tout ça, c'est très bien. J'ai rien d'autre à ajouter.
Voilà, on va les remercier. N'hésitez pas à les voir pour vous faire dédicacer ou avoir des recettes de cuisine. Merci à vous, merci à eux.